Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Et nous parlerons tout à l'heure de cette décision du gouverneur d'Abidjan d'interdire la mendicité. Fini le désordre urbain, affirment les autorités de la plus grande ville de Côte d'Ivoire qui ne veulent plus de mendiants dans les rues, mais aussi plus de commerce ambulant sur les grandes artères. Le gouverneur affirme vouloir assainir, je le cite, le cadre de vie des populations et assurer davantage la sécurité des personnes. Alors que pensez-vous de cette mesure? Est-elle radicale? Vous êtes à Abidjan. Dites-nous si le décret qui est en vigueur depuis maintenant une semaine est respecté. Qu'en est-il dans votre pays, dans votre ville, vous qui nous écoutez un peu partout à travers le continent africain? Vos témoignages nous intéressent. RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70 et je croule sous les commentaires reçu sur WhatsApp et Facebook. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI et nous allons commencer avec Amadou. Il est à Dinguiraye, c'est en Guinée. Bonjour Amadou.
Bonjour Juan Gomez.
Et bienvenue sur RFI. Vous avez des questions sur la plainte déposée par le Nicaragua contre l'Allemagne concernant la situation dans la bande de Gaza.
Juan, je commencerai à dire bonjour à tous les fidèles auditeurs de la grande radio.
Merci.
Permettez-moi de souhaiter de tout mon cœur une bonne fête à ma Guinée et particulièrement aux braves populations de Dinguiraye. Devant la Cour internationale de justice, le Nicaragua accuse l'Allemagne de faciliter un génocide en Palestine en fournissant des armes à Israël. Que recherche le Nicaragua avec de telles accusations?
Oui, plainte déposée devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies. Les audiences ont eu lieu ces deux derniers jours à La Haye. Audience que vous avez suivie, Stéphanie Maupa, bonjour.
Bonjour Juan.
Correspondante de RFI à La Haye, le Nicaragua, rappelons-le, accuse l'Allemagne de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide. Amadou le rappelait à l'instant, Israël livre du matériel militaire, l'Allemagne livre du matériel militaire à Israël. Expliquez-nous Stéphanie Maupa, pourquoi le Nicaragua s'est-il lancé dans une telle procédure judiciaire ?
Alors le Nicaragua, hein, vous savez qu'il espère que les juges prononcent un embargo sur les armes de l'Allemagne à Israël. Eh bien, l'ambassadeur, lorsqu'il a ouvert les plaidoiries lundi, a expliqué que son pays ressentait une forme de sympathie pour la cause palestinienne, notamment parce que le Nicaragua a aussi été l'objet de nombreuses attaques militaires, c'est ce qu'il a expliqué. Et il faisait notamment référence au soutien militaire des États-Unis au Contras. Hein, vous savez, c'était un groupe armé qui s'attaquait au pouvoir en place dans les années 80. Et puis, par ailleurs, eh bien, le Nicaragua, hein, dont le régime actuel de Daniel Ortega est quand même accusé de violation des droits de l'homme, eh bien, essaie de se placer clairement dans le sillage de l'Afrique du Sud en se faisant un peu la championne du droit international. L'Afrique du Sud, vous savez, qui a saisi cette même cour contre Israël en l'accusant de génocide et de violation du droit international.
Voilà, en tout cas, le Nicaragua, vous le disiez en substance, Stéphanie Maupa, demande aux juges d'imposer des mesures d'urgence pour empêcher l'Allemagne de fournir des armes à Israël. Vous avez une dernière question, Amadou?
Oui, Juan. Pourquoi accuse-t-il seulement l'Allemagne et pas d'autres pays?
Ah, et notamment les États-Unis, premier fournisseur d'armes à Israël, Stéphanie Maupa?
Oui, effectivement, l'Allemagne n'arrive qu'en deuxième position dans ce sinistre palmarès, mais Washington a en quelque sorte organisé son impunité puisqu'il existe de nombreux obstacles juridiques qui rendent plus difficile la possibilité de pouvoir poursuivre les États-Unis. Vous savez, les 193 États qui forment les Nations Unies sont automatiquement membres de cette Cour qui est la plus haute instance judiciaire de l'ONU, mais ces États ont le droit d'émettre certaines réserves. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, c'est ce qu'ont fait aussi le Canada et le Royaume-Uni. Pour ces deux pays, il faut un préavis de 6 mois avant de pouvoir formellement déposer une requête contre eux devant la Cour internationale. Et ils ont reçu ce préavis de la part du Nicaragua. Le 1er février, Managua a adressé un courrier à plusieurs pays en leur rappelant leurs obligations internationales celle notamment de prévenir, d'empêcher des crimes de guerre ou des actes de génocide.
Et aux Pays-Bas où vous êtes, Stéphanie Maupas, les juges ont fini par interdire à l'État d'exporter des armes vers Israël.
Oui, effectivement, hein, les juges néerlandais ont fini par interdire notamment les composants du F-35, hein, ces avions qui bombardent Gaza et qui, selon les juges néerlandais, pourraient permettre des violations graves du droit humanitaire. Alors on peut souligner que c'est un fonctionnaire néerlandais qui, au départ de cette affaire, avait sonné l'alerte, hein, s'inquiétant de possibles crimes de guerre commis par l'armée israélienne avec le matériel livré par son pays. Et vous savez, selon le traité international sur le commerce des armes, les États doivent s'assurer que les armes exportées ne seront pas utilisées pour commettre des crimes. Alors en demandant à l'État de stopper les exportations, la justice néerlandaise avait notamment pris en compte le nombre important de civils tués à Gaza. Aujourd'hui, c'est plus de 33 000. Et selon les révélations récentes d'un journal en ligne israélien, l'État hébreu utilise l'intelligence artificielle pour définir ses cibles, et une intelligence artificielle dont la programmation autoriserait de grandes pertes de civils.
A-t-on répondu à vos questions, Amadou ?
Comme toujours, Juan. Merci. Ah,
bah merci de vos encouragements et on remercie évidemment Stéphanie Maupas, correspondante de RFI à La Haye. 10h17 à Paris, on repasse au standard. 33 9 693 693 70. Bonjour Abdelrazak.
Oui, bonjour Juan et bonjour à vous, 1 million d'auditeurs dans le monde.
Et vous faites partie de ces nombreux auditeurs qui nous écoutent au Tchad. Vous avez des questions sur la guerre à Gaza?
Effectivement, Juan. 6 mois après le début de la guerre Hamas-Israël, l'armée israélienne a annoncé le retrait de ses troupes de Khan Younes. Alors, Juan, quelle est désormais la stratégie israélienne?
Oui, depuis dimanche, l'armée israélienne n'est plus dans la localité de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, théâtre ces derniers mois d'intenses combats et de très nombreuses frappes aériennes. Bonjour Michel Goya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien colonel des troupes de marine, historien militaire. Vous publiez d'ailleurs ces jours-ci aux éditions Perrin et Robert Laffont l'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas. Comment interprétez-vous, Michel Goya, le retrait de l'armée israélienne de Khan Younes ?
Oui, alors on a un peu de mal à suivre la stratégie israélienne en réalité, si tant est qu'il y ait vraiment une stratégie. On a plutôt l'impression d'avoir une série de réactions aux événements. Là, avec cette annonce de repli de la division qui se trouvait dans le sud, on peut y voir, le discours israélien consiste à dire, voilà, nous avons atteint une bonne partie de nos objectifs, nous avons fait beaucoup de mal au Hamas et aux autres groupes alliés, nous avons tué au moins 10 000, alors ils revendiquent plus de 13 000 combattants ennemis tués, ce qui veut dire avec les blessés graves, les prisonniers, qu'ils auraient anéanti les 2/3 du potentiel du Hamas et de ces groupes, et ils disent, voilà, bon, donc nous avons assuré la majeure partie de notre mission. Et maintenant, nous passons à une phase de contrôle du nord du territoire de Gaza et de reconstitution de nos forces qui sont impliquées depuis 6 mois dans les combats pour éventuellement revenir au sud, revenir éventuellement. Bah,
vous dites,
terminer
Michel Goya, vous dites éventuellement revenir. Tous les regards sont tournés vers Rafah, qui est encore un peu plus au sud dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été très clair. Il a dit nous avons déjà fixé une date pour l'offensive sur Rafah.
Oui, alors ça, c'est du discours. Hein. C'est-à-dire qu'il est là aussi, on rentre maintenant plutôt dans une phase, en parallèle plutôt des opérations militaires, vous avez une phase aussi de négociation, notamment pour la libération des otages. Et donc, dans cette négociation, il faut aussi peser. Le discours israélien, là, ça a toujours été de dire, voilà, nous, c'est par la force, c'est par la contrainte que nous obligeons le Hamas à libérer les otages. Donc, dans ce cadre-là, oui, on maintient la menace de... on maintient même pas la menace, on annonce que la mission n'est pas terminée et qu'on continuera au sud. C'est un message qui s'adresse aussi à la partie de l'opinion publique israélienne qui considère que oui, il faut continuer, il faut détruire en réalité le Hamas. Maintenant, voilà, du point de vue opposé, le Hamas, à ce stade, il peut dire, voilà, nous avons résisté, en fait, ce départ est le résultat de notre résistance. Ça fait 6 mois de combat, c'est une des guerres les plus longues pour Israël. Et, les soldats israéliens dans Gaza ont perdu, 2400 tués et blessés. Et c'est notre résistance qui a permis d'obtenir le repli de Tsahal. Donc nous sommes, nous, Hamas, plutôt dans une position de force, et nous, surtout nous sommes toujours là. Nous sommes, donc pour eux aussi, en un discours de victoire, qui pour le coup n'est pas complètement faux. Les Israéliens ont buté incontestablement sur des problèmes militaires importants et ont certainement hésité à poursuivre la conquête de Gaza à Rafah, parce que c'était très compliqué, parce qu'il y avait il y a 1,5 million de personnes qui sont dans le secteur, et qu'on est juste à la frontière d'Égypte, donc c'était devenu extrêmement compliqué.
Et Rafah, qui est considéré par Israël comme le dernier bastion du Hamas. Merci infiniment de votre analyse et expertise, Michel Goya, en tant qu'ancien colonel des troupes de marine. Et je renvoie les auditeurs qui s'intéressent justement à cette guerre Israël-Hamas à votre dernier ouvrage, Embrasement, comprendre les enjeux de cette guerre, aux éditions Robert Laffont. Abdelrazak, bonne journée au Tchad. 10h21 à Paris, on va parler d'un sujet un peu plus léger. Antoine Grenier du service des sports me rejoint à l'instant. Soyez le bienvenu, Antoine.
Bonjour, Juan. Bonjour, tout le monde.
On va parler football. Des questions sur le Bayern Munich au lendemain du match nul contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions. Soyez le bienvenu, Habib. Bonjour.
Bonjour, monsieur Juan. Et bonjour à vos collègues. Et bonne fête de fête à tous les fidèles musulmans à travers le monde.
Habib, vous êtes à Cancan, en Guinée. Supporter du Bayern Munich, j'imagine.
Oui, je suis supporter de Bayern Munich et fan de Kylian Mbappé.
Ah, et fan de Kylian Mbappé. Bon, je ne sais pas si Kylian Mbappé finira sa carrière au Bayern. Antoine Grenier. Mais en tout cas, ce n'était pas votre question. Allez-y.
Oui, le FC Bayern Munich a enchaîné deux défaites en Bundesliga et se retrouve à 16 points du premier. Comment expliquer ces mauvaises performances? Le club peut-il tout de même faire une bonne Ligue des Champions?
Alors, Antoine Grenier, on va revenir dans un instant sur le match d'hier soir. Le Bayern Munich, en tout cas, accumule les mauvais résultats.
Oui, bah oui, après 11 titres consécutifs pour le Bayern en Allemagne, voilà, la série, elle va prendre fin, c'est quasiment inévitable, mais la catastrophe, elle couvait depuis bien plus longtemps que ça. En mai dernier, Julian Nagelsmann, le tout jeune entraîneur qui avait été recruté à prix d'or, a été limogé, remplacé par Thomas Tuchel, et c'était un peu l'aboutissement d'un lent processus de tensions en coulisses à l'issue de la dernière saison. Le PDG Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidžić ont été remercié juste après le dernier match de Bundesliga et le titre remporté par le Bayern. En fait, le directeur sportif a payé sa gestion, quelques choix hasardeux, comme le fait de laisser partir Robert Lewandowski au Barça et de le remplacer par un Sadio Mané qui ne s'était pas adapté. Mais ce n'est pas le seul pari raté par Salihamidžić, qui a été régulièrement critiqué au sein même du club. En fait, cette saison 2024, il faut la voir un peu comme une saison de transition pour le Bayern. Sauf que le Bayern, c'est un ogre, c'est une énorme équipe qui n'a pas le droit d'avoir ce genre de creux. Et puis, il y a le Bayer Leverkusen qui fait une saison énorme avec Xabi Alonso à sa tête. Et ça a, par ricochet, mis en lumière les difficultés du Bayern.
Il y a des tensions dans les vestiaires.
Oui, exactement.
Elles existaient sous
Julian Nagelsmann. Mais en fait, entre les anciens, les cadres, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, qui sont des vrais patrons du vestiaire, et les nouveaux arrivants, que d'ailleurs pas mal d'anciens considèrent n'ayant pas l'ADN du club, ça passe mal. Thomas Tuchel n'a pas réussi à trouver la solution à toutes ces tensions. Il partira d'ailleurs à la fin de la saison. Et puis tout ça se mêle à des difficultés sportives, des performances individuelles moins bonnes. On peut penser notamment à Dayo Upamecano, le défenseur central de l'équipe de France et du Bayern, qui a perdu sa place. Mais les défenseurs titulaires qui ont été installés par Thomas Tuchel ne sont pas toujours au niveau, notamment lors de la défaite face à Dortmund dans le Classica.
Le Bayern compte 16 points de retard sur le premier du championnat allemand. Autant dire qu'il ne reste plus que la Ligue des Champions pour
ce club. Oui, parce qu'il a été en plus éliminé assez piteusement de la Coupe d'Allemagne. Donc il reste la Ligue des Champions pour gagner un trophée. Et là, de ce point de vue-là, les deux défaites en championnat, les deux défaites consécutives contre Dortmund et Heidenheim peuvent signifier que l'équipe, d'une certaine manière, se concentre sur la Ligue des Champions plus que le championnat. Tuchel lui-même l'a admis en félicitant le Leverkusen pour son titre à venir. Le motif d'espoir, finalement, il est dans les coulisses. C'est Max Eberl qui a été nommé directeur sportif, qui est passé par le Bayern quand il était vraiment tout petit. Et ensuite, il est allé comme directeur sportif au Borussia Mönchengladbach, puis au RB Leipzig. Sa mission, c'est de remettre de l'ordre, Et le discours qu'il tient est très apprécié en coulisses.
Habib nous demandait s'il fallait s'attendre au départ anticipé de Tuchel.
C'est assez peu probable parce que Julian Nagelsmann avait été recruté à prix d'or pour 20 millions d'euros. Son licenciement a aussi coûté très cher, donc les caisses sont à peu près vides de ce point de vue-là du côté du Bayern. Il n'y a pas de souci financier,
mais
ils
n'ont
pas d'argent à mettre là. C'est difficile de les imaginer virer un Thomas Tuchel qui a dit qu'il partirait en fin de saison, donc lui verser des indemnités alors qu'il n'aurait rien à lui verser. S'il s'en va, effectivement. Non, il va falloir s'en remettre à des individualités, notamment à Harry Kane, qui fait une excellente saison, mais la poisse le poursuit un petit peu. Il n'a jamais gagné de trophée, jamais à Tottenham, et ça se passe mal au Bayern, en tout cas collectivement.
Habib, a-t-on répondu à vos questions ?
Effectivement, Juan. Merci à Fred Sutto et surtout bonne Ligue des Champions à Kylian Mbappé.
Alors, Fred Sutto, il a dû écouter. Antoine Grenier, qui était à mes côtés et qui vous a répondu. À bientôt, Antoine.
À bientôt, Juan. On a un peu la même voix avec Frédéric.
Ah bon, vous trouvez ? Bon, moi, je trouve pas, mais enfin, vous êtes chacun reconnaissable. 10h26 à Paris. Allez, il nous reste encore quelques instants, quelques minutes. Pour parler du Sénégal, on a des questions sur le gouvernement du nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko. Bonjour, Bécaille.
Oui, Juan, bonjour.
Soyez le bienvenu. Merci de nous appeler de la région de Thiès. On vous écoute.
Merci beaucoup. Et j'en profite pour saluer toute la population de Baliga et de leur souhaiter bonne fête à Moussa Dia, à Aline Drame aussi.
Baliga, dans la région de Thiès. Allez-y, vos questions, Bécaille.
Le 5 avril dernier, le président Ousmane Sonko a rendu publique la liste de son gouvernement, qu'il a présenté comme un gouvernement de rupture. Comment peut-on expliquer l'absence du PDS alors que Karim Wade avait lui-même soutenu le candidat Bassirou Diomaye Faye ?
Ouais, le PDS et son candidat Karim Wade, empêché de participer à la présidentielle, avaient effectivement appelé à voter pour Bassirou Diomaye Faye. Bonjour Alassane Dao.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, faut-il s'étonner qu'aucun membre du PDS ne soit dans le nouveau gouvernement ?
Pas trop, hein, même si l'absence du PDS dans le nouveau gouvernement est un fait notable, au vu notamment de son poids électoral, voilà, de l'histoire politique, mais surtout de son soutien, même tardif, hein, qu'il a apporté aux candidats du passé. Mais en fait, cela peut s'expliquer par la volonté du nouveau régime de rendre beaucoup plus crédible hein, le discours de rupture, mais aussi la posture réformiste qu'ils ont vendue à l'électorat sénégalais. Donc, le premier chantier, en fait, de cette rupture concernait la formation du nouveau gouvernement. L'idée ici était de rompre avec la pratique des quotas politiques qu'on a constaté depuis 1960, qui résultait notamment des négociations et compromissions entre les différentes composantes de la coalition. C'est-à-dire, en termes clairs, chaque composante négocier un nombre de ministres en fonction de son poids électoral, etc. Donc, cela renvoyait à l'image d'un partage du gâteau auprès de l'opinion.
Et là, il n'y a plus de partage du gâteau. D'ailleurs, on voit que la moitié de l'équipe gouvernementale est issue des rangs du PASTEF.
Oui, mais c'est quand même ce sont des profils qui n'ont pas une grande visibilité dans l'espace. Médiatiques, mais aussi ce sont des profils de technocrates, même s'ils ont une appartenance au passé. Donc c'était vraiment ça, rompre avec cette pratique de quotas, de compromissions, de négociations, et puis miser sur des profils assez rares, peu visibles, mais voilà, qui ont quand même une expertise dans des secteurs d'activité bien précis.
Oui, voilà.
Donc c'était ça vraiment l'exigence un peu du nouveau régime.
De nouveau gouvernement. Merci beaucoup. Dont le premier conseil des ministres a eu lieu hier. Les 25 ministres et 5 secrétaires d'État étaient autour du président Bassirou Diomaye Faye. Merci infiniment Alassane Dao, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger. Bécaille, désolé, je sais que vous aviez d'autres questions, mais voilà, on est obligé de rendre l'antenne pour la dernière édition d'Afrique Matin, mais voilà, on aura l'occasion peut-être de répondre à vos questions très très vite. Vous continuez à nous appeler, à nous écrire sur les réseaux sociaux. On a envie de vous entendre sur le débat du jour concernant la mendicité. Est-il possible d'éradiquer ce phénomène ? On vous pose la question car depuis la semaine dernière, le gouverneur d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ne veut plus voir de mendiants dans les rues de la capitale. Qu'en pensez-vous ? La mesure est-elle trop radicale ? On en parle tous ensemble juste après le journal.